Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à Star Wars en direct, édition Clone Wars. Cette semaine, nous discutons de l'épisode Jedi Crash, qui est le 13e épisode à être mis en onde, mais qui avait été le 22e à être produit. Il a été écrit par Katie Lucas, la fille de George Lucas, et réalisé par Rob Coleman. Pour cet épisode, la voix de Ayla Secura est jouée par Jennifer Hale. La voix de Tiwatka est joué par George Coe et la voix de Yagtu est jouée par Alec Medlock. La description de l'épisode va comme suit. La flotte de la République est sur la défensive. Alors que la guerre fait rage dans l'espace disputé de la bordure extérieure, le chaos et la peur semblent se répandre dans l'esprit de tous. Dans le système de Quell, les séparatistes font face à une flotte républicaine en infériorité. Anakin Skywalker parcourt la galaxie dans l'espoir de venir en aide à Ayla Secura et sa flotte. Dans l'atmosphère raréfiée de la planète Quell, trois destroyers subissaient la pleine puissance des canons séparatistes. Secoués par les attaques se succédant, Ayla Secura et ses officiers contemplaient la chute de leurs boucliers. Bientôt, la flotte républicaine se réduisit au vaisseau amiral lorsque les deux autres destroyers en feu étaient inexorablement attirés par l'attraction planétaire. Le Resolute, destroyer d'Anakin Skywalker, arriva dans le système et se mit aussitôt à bombarder les frégates ennemies. Mais les séparatistes étaient pleins de ressources et un droïde tacticien décida du déploiement de super droïdes de combat équipés de roquettes. Ces derniers ne tardèrent pas à rejoindre le vaisseau de Secura et grâce aux innombrables brèches causées par la bataille, ils purent pénétrer à l'intérieur du destroyer. Le commandant Bly prit la tête des clones chargés de repousser les droïdes ennemis. La réponse du Resolute ne se fit pas attendre. Ses hangars libèrent des canonnières chargées de protéger le vaisseau de Secura. Les droïdes de combat ne tardèrent pas à repérer les nouveaux arrivants et quelqu'un les prit alors en joue. L'un des droïdes parvint à se poser sur la canonnière où se trouvait Anakin avant de se mettre à dépecer la verrière du cockpit. Mais Anakin Skywalker était plein de ressources. Il se jeta hors du vaisseau en pleine chute libre. Il parvint à se diriger vers un droïde équipé d'un rocket pack. Se servant du propulseur dorsal, Anakin réussit à amortir sa chute. Hélas, ce ne fut pas le cas des autres passagers de la canonnière qui percutèrent le destroyer de Secura. À peu près indemne, Ahsoka Tano et les clone troopers se mirent immédiatement en quête de la générale Twi'lek. Les droïdes qu'ils rencontrèrent ne présentèrent pas une grande menace pour les sabres des Jedi et unis avec le groupe de Secura, les républicains formaient un groupe petit mais puissant. Les droïdes qui avaient réussi l'abordage du destroyer n'étaient pas une menace, mais les tirs renforcés des séparatistes provoquaient de redoutables explosions. C'est l'une d'elles qui blessa Skywalker. Faisant appel à la force, et plus précisément à son pouvoir de télékinésie, il bloqua un sas coupe-feu suffisamment longtemps pour permettre à ses compagnons de s'enfuir. Mais Ahsoka Tano n'était pas prête à laisser son maître périr dans l'épave du destroyer, aussi retourna-t-elle le chercher. Ensemble, ils rejoignèrent un croiseur consulaire aux couleurs de la Grand Army of the Republic. Pris dans la tempête de laser, le croiseur bien carmé subit de nouveaux dégâts, notamment à son hyperpropulseur. Ce dernier se déclencha de manière fortuite et propulsa le vaisseau en direction d'une étoile. Les talents conjugués des clones et des Jedi permirent à l'équipage d'éviter l'étoile, mais le nouveau cap le faisant croiser de très près une planète. L'écrasement fut violent, mais Secura, Tano, Bly et Rex et quelques clones parvinrent à sortir de l'épave du croiseur avec Skywalker, toujours inconscient. Aménageant un camp de fortune, les républicains décidèrent de se séparer et d'aller chercher de l'aide, en particulier un médecin pour Skywalker. Rex resta veiller son général tandis que Tano, Sekura, Bly et les clone troopers survivants se mettaient en quête de secours. Sur le chemin, ils eurent à en découdre avec des Fallon, étonnants prédateurs qui ne firent qu'une bouchée des clone troopers Cameron, Lucky et Flash. Avec des effectifs moitié moins importants qu'au départ, le groupe de Sekura rejoignit enfin le village. L'aîné du groupe d'habitants, le plus vieux des Lerman, se nommait Tiwatka. Il n'hésitait pas à venir à la rencontre des étrangers et à leur affirmer qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Le Lerman ne croyait pas en la noblesse des Jedi. Ils n'étaient pas les gardiens de la paix qu'ils affirmaient être selon lui. Les Jedi n'apportaient que la guerre et la peur et c'est pourquoi les Lerman étaient venus se réfugier sur Meriden pour éviter de vivre en pleine guerre des clones. À force d'appels à la compassion, Tiwatka céda et leur confia son fils Wagtu, un guérisseur. Le groupe retourna prestement au campement pour trouver Rex et Skywalker en situation périlleuse. Deux massifs Fallon se faisaient menaçants et seule l'intervention de Wagtu permit au groupe de se débarrasser des prédateurs. J'ai discuté avec Jean-François et François à propos de l'épisode Jedi Crash. Voici nos commentaires. Bon ben bienvenue à tous, bienvenue Jean-François.
Bonjour.
Salut François.
Bonjour.
Donc vous avez écouté le dernier épisode récemment, qu'est-ce que vous en avez pensé, première impression?
Première impression, j'ai trouvé que c'était un meilleur épisode que le dernier, le Gungan General. qui dans le fond était pas très dur à battre là, mais non c'était très bon, il y a beaucoup d'action, c'est visuellement j'ai trouvé que l'épisode était vraiment excellent à voir tout. Puis avec l'introduction de Ayla Sekura dans la série puis Commander Bly, donc non c'est excellent.
Toi François?
Moi aussi j'ai trouvé ça, en fait c'est pour moi c'est un des excellents épisodes là, dans juste du fait que qu'il y a autant d'action, qu'il y a plus un petit côté moral aussi à la fin là, avec le peuple qui est sur la planète finale là. Mm-hmm. Donc pour moi c'est un excellent épisode, une bataille en atmosphère qui est encore époustouflante, j'ai hâte de la voir en haute définition honnêtement.
Moi pour ma part ben c'est un début, c'est surtout le début qui m'a vraiment impressionné, c'est à la Revenge of the Sith comme le début de la bataille de Coruscant un peu, sauf que c'était encore plus bas dans l'atmosphère, ça avait vraiment un feel Star Wars la première partie. Et on a eu aussi une vraie victoire séparatiste dans cette première partie là je dirais, comme
première fois.
Ouais, ben c'est sûr qu'on pourrait dire quand Ventress a sauvé Newt Gunray, c'est peut-être une victoire là. Mais il y a aussi le premier épisode du Malevolence quand il a réussi à détruire le vaisseau de du Maître Jedi, c'est Plo Koon. Fait qu'ils sont pas.
Vas-y François. Excuse-moi, est-ce que c'était un épisode qui était dans l'ordre? J'étais en train de me poser la question. Parce que c'est sûr que dans les previews au début, tu vois lorsque l'épisode de voyons que Ventress va
sauver
Newt Gunray. Donc, je me suis dit, ça suit vraiment pas trop loin, mais est-ce que ces épisodes-là étaient vraiment dans l'ordre? Parce que là, il y a vraiment une victoire séparatiste, comme il parlait au début. Là.
Mais Dave Filoni, il dit qu'ils sont pas vraiment dans l'ordre qui apparaissent à l'écran. Là. Fait qu'on peut pas savoir. Un jour, on va savoir c'est dans quel ordre qu'il faut les considérer. Mais bon, là,
peut-être le DVD, on va voir.
Ouais. J'en doute. Autre chose que j'ai bien aimé de cet épisode-là, c'est juste dans mes premières impressions encore. La chose que j'aurais aimé qu'il y ait lieu, un peu contraire à ce qui est arrivé, c'est que ça aurait été mieux que Ahsoka soit malade à la place d'Anakin, tu sais, que ça soit elle qui soit comme knockout, qui ait perdu conscience. Pour que le Fortune Cookie, qu'on va en parler juste après, que le Fortune Cookie s'appliquerait plus à Anakin, qui aurait peur de perdre Ahsoka, c'est sa responsabilité d'être maître. Puis en plus, on sait qu'Anakin va survivre, fait que ça sert à rien de le montrer inconscient, on sait qu'il va s'en sauver, pareil. Mais si ça aurait été Ahsoka, ben là, on a un petit suspense, un petit drama, est-ce qu'elle va survivre ou pas? On le sait évidemment qu'elle risque de survivre là, parce que c'est quand même une mission pour enfants là, mais ça aurait été mieux que le danger soit sur Ahsoka au lieu d'Anakin personnellement.
Mais je suis d'accord.
Sauf
parce que aussi on est un peu tanné honnêtement de voir que c'est tout le temps les padawans qui sauvent les maîtres là. Un moment donné, il faudrait que les maîtres soient supérieurs.
Mm-hmm. Donc, ouais, c'est ça, c'est comme si les padawans sont plus forts que les maîtres là.
C'est ça. Le fortune cookie, donc une autre en français on appelle ça la devise de l'épisode ou la morale de l'épisode. C'est « Greed and fear of loss are the roots that lead to the tree of evil ». Donc, l'avidité et la crainte de perdre sont les racines qui conduisent à l'arbre du mal. OK, ça s'applique vraiment, dans le fond, à... Personnellement, je pense que c'est Ahsoka qui veut pas perdre Anakin, dans le fond. Là. Fait qu'il faut pas avoir peur de perdre, dans le fond. C'est la peur qui mène au dark side, comme dans... Comme Yoda
c'est tout à fait ça, parce qu'à un moment donné, je crois, là, Sekura mentionne à Ahsoka de pas avoir peur de perdre. Faut vraiment suivre qu'est-ce qui est meilleur pour le groupe et non nos propres intérêts. Là. Faut pas s'attacher, dans le fond. Là.
Mm-hmm. Aussi quelque chose qui est surprenant de cet épisode, c'est que ça a été écrit par Kathy Lucas, qui est la fille de George Lucas. Donc... C'est surprenant. Je sais pas si c'est elle qui va remplacer son père dans l'écriture future.
Pourquoi? Elle devrait.
C'est un bon début.
C'est ça. Je sais pas à quel âge elle doit être en bas de 20 ans encore. Mais quand même, c'est bon. Mm. Ensuite,
juste
bon.
Au niveau action, je sais pas si c'est elle qui a tout décrit l'action dans son script, mais tout ça, mais en tout cas, tous les plans de vue, tout ça, c'est très bon. Même de les vapor trails dans l'atmosphère, que ça fait vraiment un sense of scale qu'on appelle, là, on voit vraiment que
l'échelle
dans
de...
l'atmosphère plus haut, tu sais, il y a les trails de vapeur puis tout ça, là.
Mais ça a été réalisé par Rob Coleman, donc c'est celui qui a fait les effets spéciaux sur Revenge of the Sith, donc, il sait comment avoir des plans de vue cinématographiques, disons-le.
C'est ça. Il y a aussi comme la chaleur quand il rentre dans l'atmosphère en dessous des vaisseaux, les supposés Star Destroyer. Là.
Mm-hmm.
Ça, donc, déjà là, tout le côté visuel de la bataille est excellent. Les plans de vue, tous les rocket droids qui plongent, puis tout, là, c'est très bon.
Mm-hmm. Vas-y.
Juste une petite parenthèse, on a l'impression que la qualité visuelle de cet épisode-là est comme supérieure aux autres.
Mm-hmm.
C'est comme si, je sais pas s'ils ont mis plus de temps ou je sais pas trop à travailler sur cet épisode-là comparativement aux autres.
Ben, disons que dans l'atmosphère, c'est très lumineux, très clair. Ouais. Tandis que sur la planète, c'est plus sombre. Donc, c'est peut-être la partie qui est vraiment bien éclairée au soleil. C'est peut-être ça qui nous donne l'impression que c'est plus beau, etc. C'est vrai qu'il y a des beaux contrastes, etc. Mais, t'as raison. Je veux dire, depuis quelques épisodes, comment dire, la réalisation visuelle, les modèles 3D sont de mieux en mieux. C'est sûr qu'on avance dans la production. C'est supposément le 22e qui a été produit, celui-là. Puis c'est seulement le 13e à être diffusé. Donc, il y en a eu plusieurs.
Ça, ça me faisait penser, pour ça aussi, est-ce qu'il a été produit dans l'ordre? Est-ce qu'ils ont mis beaucoup plus de temps dans les effets visuels de celui-là? C'est pour ça qu'il passe plus tard. Donc,
ouais, peut-être.
Je sais pas, là.
Ils ont probablement des budgets différents. Parce que là, ils ont introduit un nouveau modèle 3D qui est Ayla Secura. On va en parler, d'ailleurs. Donc, c'est la première fois qu'on l'aperçoit. Je pense pas qu'elle était elle était même pas en caméo dans le film Clone Wars ou bien en hologramme dans la série. Je pense qu'on l'a jamais vu encore.
Non. C'était vraiment
un petit accent français, hein?
Ouais. On va en parler de l'accent. Moi, au début, j'étais pas sûr si c'était, premièrement, c'est la personne qui fait la voix, c'est Jennifer Hale. Ceux qui connaissent KOTOR, The Knights of the Old Republic 1, c'est elle qui faisait la voix de Bastila Shan. Puis je pense, j'ai entendu dans un autre podcast qu'elle joue aussi la voix de Jaden Kor, version féminine, dans Jedi Knight, Jedi Academy. Parce que Jaden Kor, tu pouvais jouer en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc c'est elle qui faisait la voix de Jaden Kor en femme. Cependant, là, je pense qu'il y a un roman qui s'en vient sur Jaden Kor. Je me souviens plus c'est quel auteur qui va le faire. Fait qu'on va sûrement avoir la réponse définitive si c'est un homme ou une femme, Jaden Kor. Bon, pour l'accent, justement, moi au début, j'étais pas sûr si c'était français. Moi, je trouvais que ça sonnait russe. Mais c'est en écoutant les commentaires de Dave Filoni qui a mentionné que c'était français, que George a décidé que ce serait français, Fait qu'ils ont dit, bon, on va y aller avec ce que George dit. Parce qu'au début, Dave Filoni voulait avoir ça un peu américanisé, là. Il voulait avoir une voix plus américaine, mais George a dit, non. On donne un accent français.
Allez, les bleus.
Hein?
Allez, les bleus.
Ouais, c'est, ouais, ok. Bonne référence. Ben, d'ailleurs, moi, qu'est-ce qui me fait penser, la raison pourquoi je crois qu'il a décidé parce que de changer pour un accent français, ben, déjà, en partant, on le sait, dans les films, Bib Fortuna, il n'y a pas un accent français. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'il a décidé volontairement de le changer. Pourquoi? Ma théorie, les trois derniers épisodes se déroulent sur Rylot et c'est un hommage au débarquement de Normandie.
Ah, peut-être.
Donc, Rylot, c'est la, comment dire, la planète des Twi'leks. Mm-hmm. Donc, peut-être que pour fermer le cercle, et dit, on va leur donner un accent français. Fait que quand ils vont aller les trois épisodes sur la planète, ils vont avoir un accent français, comme les Américains qui viennent aider les Français dans le débarquement de Normandie. Oh, ouais. C'est une théorie que, en tout cas, qui est très plausible. Ça serait le genre à George Lucas de faire ce genre de changement-là.
Ouais, t'sais, de faire des références à l'histoire, ouais.
C'est ça, tu sais. Mais bon, encore une fois, ils ont décidé de donner un accent à une autre race. Ils vont peut-être en manquer à un moment donné, là. Je sais pas, ils veulent montrer que c'est ultra multiculturel comme émission ou comme galaxie, là.
C'est parce que des fois, ça sonne douteux un peu, tu sais, comme Newt Gunray, là, tu sais, c'est un peu...
chinois.
C'est assez stéréotypé, comme, ouais. Je sais pas si toutes les... je sais pas si c'est hindou, là, qui...
Mm-hmm. Non, je pense que c'est plus asiatique, genre japonais, ouais. Ou chinois, là.
Mais c'est assez comme stéréotypé, je sais pas si la population aime vraiment ça, là.
Ouais, c'est sûr. Mais bon... Vas-y.
Non, le côté français, donc, je crois pas que ça offense tant de personnes que ça, parce que c'est vraiment une personne française qui parle anglais, ou vraiment, je sais pas si la personne qui fait la voix est vraiment francophone.
Non, c'est une américaine.
C'est une américaine qui imite un accent français.
C'est
donc,
ça. C'est pour ça que moi, dans ma tête, c'était russe au début. Je trouvais que ça sonnait tellement russe, mais finalement, c'est en écoutant les commentaires de Dave Filoni sur le StarWars.com que j'ai su, ah ben oui, c'est français. C'est pour moi, c'était russe, plus. Mais encore une fois, ça, il y avait des Russes aussi à la Deuxième Guerre, là, mais bon.
Que vont-ils faire dans la traduction du c'est DVD?
Mais il y a un point que j'ai entendu sur Internet, c'est les Jedi, là, ils devraient tous avoir le même accent. Peu importe la race. Parce qu'ils sont tous élevés à partir de très très jeunes au temple Jedi. Fait qu'ils devraient tous avoir des accents semi-britanniques.
Ouais, mais ils ont plusieurs maîtres différents, donc chaque maître vient, ouais.
Ouais, mais tout, même les maîtres, même
c'est
les...
C'est un film.
Ouais, c'est sûr. Mais,
c'est on sûr est là que pour c'est tout analyser.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Mais, tu sais, vas-y.
Non, mais je suis désolé, t'as raison. S'ils sont tous élevés au même endroit à partir de bas âge, ils devraient tous avoir le même accent à la fin.
C'est vrai que les maîtres aussi sont élevés depuis tout jeune âge. C'est comme perpétuel.
C'est ça, il y a peut-être les premiers, là, mais ils venaient du coin, j'imagine, de Coruscant quand ça a commencé. Là,
il y a 25 000 ans. Mais ils ont pas tous la même boîte vocale vu que c'est des races différentes.
Non, c'est sûr, là.
On va loin.
Ouais.
Bon, ben, comme on disait, ils ont introduit Aayla Secura, qui est comme, avec Ahsoka, la relation femme à femme Jedi qu'elle a avec Ahsoka. Avez-vous remarqué sûrement qu'elle a un corps un peu plus normal visuellement si on la compare à Padmé, Ahsoka ou Ventress qui ont l'air plutôt anorexiques?
Oui. Elle est quand même assez maigre, mais elle a au moins une petite bédaine. Elle a des abdominaux. Là.
C'est ça. Elle a des hanches. Là. T'sais, je sais pas par rapport à sa personnification. J'ai pas lu les BD. Peut-être, Jeff, tu vas pouvoir nous le dire. Mais je sais pas si le personnage est semblable un peu à qu'est-ce qu'il personnifie dans la BD ou dans la BD on la voit pas assez peut-être, je sais pas.
On la voit quand même beaucoup dans la BD, puis oui, sa personnalité lui ressemble. C'est sûr qu'il y a des différences là, parce que dans la BD elle est plus comme un padawan, fait que je veux pas, le personnage est comme évolué. Mais non, il y a des ressemblances. C'est pas exactement pareil, mais il y a des ressemblances.
Okay. comme tu disais François aussi au début, qu'elle donnait des conseils à Ahsoka en lui parlant qu'il faut être capable de briser les liens affectifs avec son maître, etc. Puis justement, ça c'est une mention indirecte de son maître à Ayla, qui est dans les BD, Jet, il faut pouvoir confirmer, c'est Quinlan Vos son maître.
Oui.
Dans les BD, donc, pourquoi qu'ils l'ont pas mentionné? Il aurait dû, ça aurait fait un super beau lien, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, c'est une opportunité manquée, disons-le, là.
Parce que... Est-ce que Ayla Secura, elle a un Padawan, ou a déjà eu un Padawan?
Non. Ah,
non. Il me semble que non.
Non. Okay.
En tout cas, pas... Vas-y.
Non, parce qu'il est maître, quand même, donc...
Ben, il a dit Jedi. Et Jedi Knight, il a pas dit maître dans l'épisode.
C'est vrai.
Et Jedi Knight.
Je pense pas qu'elle a dit... Ben, peut-être. Je m'en rappelle plus.
Parce qu'elle est générale,
ouais,
mais
ça, c'est vrai.
Elle n'est pas au Conseil Jedi. Mais elle pourrait être maître sans être au Conseil Jedi, c'est sûr. Mais il me semble qu'il mentionne Jedi Knight dans l'épisode. Donc, d'ailleurs, tu sais, elle donne des conseils encore à Ahsoka. Mais avez-vous remarqué que il n'y a aucun maître Jedi dans la série qui a un Padawan à part Anakin? Si tu regardes Obi-Wan, y a-tu un Padawan? Non, bah Anakin, là, mais bon, il est plus vraiment son Yoda. Non, il y en a pas. Ben, mettons, si on enlève les Younglings, là, qui sont au temple, là. Plo Koon, non. Kit Fisto, il n'avait un, mais c'est plus son maître. C'est plus son...
Minera, on l'a pas vu non plus, son Padawan.
On n'a pas vu Barriss. Qui a dit Mundy, on l'a pas vu encore dans la série. Mais en tout cas, Mace Windu n'a pas. Fait que, c'est quoi qui se passe? C'est comme... Puis tout le monde qui donne des conseils à Ahsoka, c'est tout le temps mieux que qu'est-ce qu'Anakin lui dit. C'est comme... Pourquoi c'est lui seul qui est pas un bon maître, puis c'est toutes les autres.
Mais il y a quand même encore beaucoup d'épisodes à venir, donc il y a encore plein d'opportunités.
On est à 13 sur 100, là, à peu près, là, qu'ils veulent faire, là.
Mais c'est sûr qu'ils vont faire un épisode, à un moment donné, interaction Padawan-Padawan, ils vont avoir une aventure avec deux Padawan ensemble, là, je veux dire, des liens d'amitié ou des choses comme ça, là, pour que ça devienne plus dramatique, là.
Mm-hmm. J'espère bien, là. Ça serait très bien. Ben par rapport à Ayla, j'ai aussi mentionné qu'il y a un modèle 3D, donc financièrement, ça serait logique de la réutiliser plus tard, puis j'espère qu'on va l'avoir plus tard, parce que je veux dire, ça serait.
Mais c'est sûr qu'il est dans le prochain épisode.
Ouais. Non, là c'est sûr, là. Mais pensez-vous qu'on va tous voir les Jedi du Conseil, par exemple, dans le futur, là?
Il y a des bonnes chances.
Parce qu'on a l'air de faire le tour, là. On a eu Plo Koon, Kit Fisto, puis pas nécessairement tous ceux du Conseil, mais tous les Jedi connus. On va sûrement faire le tour, puis on voit vraiment qu'ils sont toujours associés avec le commandant clone qui va finalement le tuer dans Revenge of the Sith, comme dans ce cas-ci. Et là, il est avec Commander Bly, justement, comme tu as mentionné, Jean-François.
Ouais.
Puis c'est Commander Bly qui tue Ayla, ben qui donne l'ordre de la tuer sur, je pense que c'est Felucia dans Revenge of the Sith.
C'est ça, exactement.
Donc, tu sais, c'est un beau lien, comme Anakin, il est avec Rex. J'essaie de me rappeler les autres. Obi-Wan, il est avec Cody. Tu sais, c'est vraiment
Cody était dans cet épisode-là, ici.
Non,
il était-tu là?
Non, ouais. C'était Bly qui était là.
Commander non, mais Bly. Je veux dire, comme clone, là.
Non, il était pas là. T'avais Rex.
Pas un jaune?
Ouais, mais c'était Commander Bly.
OK.
Et non Cody. Cody, c'est celui qui a comme les... On dirait qu'il a des œillères, là. Son casque, c'est comme carré vis-à-vis yeux. Okay. Tandis que lui, c'est celui qui a la visière jaune.
Mais moi, juste pour compléter, je pense pas que... C'est les personnages... du côté république qui vont manquer, c'est plus les personnages de méchants en tant que tels. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a Dooku, il y a Asajj Ventress,
à peu près tout.
Puis le général Grievous que Anakin peut pas voir de tous les épisodes.
Ouais. Il y a Palpatine.
Ouais, il y a Palpatine, il y a Newt Gunray, mais je veux dire ils ont été obligés d'en inventer là, comme le capitaine des pirates dans à la fin des deux derniers épisodes.
Mais ils vont peut-être ramener Dirge.
Ouais, peut-être. Il y avait le Trent Ocean aussi dans
Ouais, mais il s'est fait tuer. Là.
C'est ça, il est mort aussi.
Ouais, j'avoue qu'il va manquer de méchants.
Comment ça manquer de méchants, là? Ou faudrait qu'il vraiment qu'il fasse des arcs d'histoire plus prolongés avec les mêmes, là.
Mais faut que tu dises que la guerre des clones, c'est surtout des droïdes qui se font... c'est une guerre contre des droïdes, donc on risque de pas mal voir juste ça, là, d'ici la fin, là.
Ils vont nous présenter des nouvelles classes de droïdes.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Comme beau lien.
C'est ça, comme dans ce cas-ci, ben, t'as les Rocket Droids, qui sont, dans le fond, ouais. Une modification des Super Battle Droids, dans le fond, là. Ça a l'air que, j'ai entendu que ça a l'air qu'ils ont déjà été introduits dans la BD, dans les Clone Wars Comic Adventure. Donc, c'est pas la première fois qu'on les voyait. Ils les appellent les Super Droids aussi, ou les Rocket Droids Super Droids. C'est comme des Super Battle Droids avec un jetpack, dans le fond. Là.
C'est comme une réponse aux clones qui ont des jetpacks, dans le fond. Là. C'est un peu...
Ouais, dans le fond. En effet. T'as le nouveau robot commandant, qui est pas Grievous, qui commande les frégates séparatistes, qui ont mis sur le site web StarWars.com, ils l'ont appelé le Tactical Droid, qui parle vraiment comme un Cylon de la vieille série Battlestar Galactica.
Mais au moins, il a l'air d'avoir un petit peu plus d'intelligence que l'autre commandant de vaisseau qui est un Battle Droid normal jaune.
Mm-hmm.
Il a l'air d'être plus axé vers la mission, là.
Ouais, c'est ça.
En fait, les Battle Droids, encore une fois, c'est comme à tous les épisodes, ils questionnent tout le temps l'ordre.
Mm-hmm.
Je sais pas si t'as remarqué, là. Ouais. Ils questionnent tout le temps les ordres.
Mais, c'est vrai, il dit... il dit, ben, détruisez-moi ce croiseur immédiatement. Puis l'autre, il dit, ben, il y a encore des centaines de droïdes à bord. Tu sais, ouais, c'est comme, il dit, ben là, wow, là, on va tuer de nos modèles, là, wow. Mm. Tu sais, c'est comme, ils ont de la compassion envers leurs modèles, je sais pas trop, là.
Puis je sais pas non plus s'il y a le même genre de code de couleur, parce que je sais que dans l'épisode, il est vert, mais dans la BD, il était rouge.
Mm-hmm.
Donc, je sais pas la différence encore, là. Sûrement une affaire de grade.
Ouais, c'est ça. Puis la BD avait pas vraiment un lien, là. Habituellement, tu sais, c'est... Habituellement, t'as un lien qui est bien fait avec le début de l'épisode, mais il n'est pas nécessaire de lire la BD. Les deux derniers épisodes, on est obligé de lire la BD pour comprendre, puis cette fois-ci, ben, y a aucun lien. Donc, je sais pas si c'est fait à la dernière minute ou en tout cas.
On va peut-être le voir dans le prochain, là. S'il y a un lien ou pas, là, avec qu'est-ce qu'ils ont récupéré dans la mémoire du Tactical Droid, là. Je sais pas.
Qu'est-ce qu'ils ont récupéré dans la mémoire?
Mais si on coupait la tête, là, dans BD.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Mm-hmm. Juste avant qu'ils s'aperçoivent qu'ils font delete all, là.
Ouais. C'est ça. Fait que c'est vrai que ils vont peut-être faire un lien avec ça. Ou ça va peut-être retentir, comme on dit, un peu plus tard.
Bon, on sait pas si les épisodes sont dans l'ordre, donc...
Non, c'est... Ouais, c'est ou avant, là. OK. Il va sûrement avoir quelqu'un à la fin, qui va toutes les mettre dans l'ordre, puis qui va brûler un DVD, puis il va le vendre bootleg, là.
Encore un lien avec les droïdes, encore pour questionner la touche de réalisme.
Mm-hmm.
C'est que quand Anakin saute sur le dos du Battle Droid, il saute direct sur ses réacteurs, je sais pas, là, mais ça doit chauffer un petit peu.
Mm-hmm.
Tu sais, il chevauche sur le dos, là, je veux dire.
Ouais.
Aïe aïe.
Mais ça, c'est pas grand chose quand tu considères que, et là, Sekura dit, on entre dans l'atmosphère maintenant, puis Anakin, il est là, dans le gunship, la porte ouverte.
Ouais, c'est vrai.
Ils sont encore,
il doit faire un petit peu froid.
Ils sont encore en haute atmosphère, là. Ben, je suis pas sûr qu'il fait super froid. T'as-tu vu la proximité avec le soleil de la planète?
Ça, c'est l'autre planète plus tard, ça.
Là, sûr?
Ils sont vraiment sur une autre planète. C'est avant qu'ils partent en hyperespace, là.
Ah, ouais, c'est ça.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on va en revenir, justement, on est rendu là. La planète Maridon, qui est la planète des Lurmen, est un petit peu proche du soleil, je sais pas. Là.
À peine. Si tu fais juste éviter l'étoile, puis t'arrives sur une planète, c'est parce qu'elle est proche, hein, s'il vous plaît, là.
C'est ça. C'est pour ça que je dis... Je sais pas si la vie elle serait possible en réalité sur cette planète-là, mais bon.
En fait, elle est quand même assez proche, parce que quand tu vois un des couchers de soleil, vraiment, le soleil est immense. Là,
ouais, c'est ça.
Un coucher de soleil, donc elle est vraiment proche de l'étoile. Là.
Mm-hmm. Il doit avoir un méchant bonne atmosphère pour protéger.
Ouais.
Qu'avez-vous pensé des bestioles? Je sais pas, c'est quoi, c'est un vautour lion, là, je sais pas trop.
C'est comme un griffon, moi je trouvais que ça ressemblait beaucoup à un griffon, un corps de lion avec une tête d'aigle.
Mm-hmm. Mm. Y avait-tu des ailes? Je sais qu'il y avait des plumes autour du cou, mais j'ai pas vu s'il y avait des ailes.
Non, il y avait pas d'ailes.
OK. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il y avait une musique péruvienne, c'était la musique thème de cette planète. Je sais pas si t'as remarqué, un peu comme...
Oui, c'était de la bonne musique, comme de la flûte de Pan.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, c'était très bon.
Bon, il y a aussi des références à l'univers étendu, parce que les Lurmen étaient supposés être les... il avait été fait en concept art, qui était supposé être les habitants de la planète Migetto. Je crois Migetto. Qui était pour Revenge of the Sith, qui était la planète où Ki-Adi-Mundi meurt dans Revenge of the Sith. Donc, c'était un concept art.
Il y a un problème de...
Non, mais c'est parce que c'était juste un concept.
OK.
Il a jamais été accepté. Donc, ces habitants-là restaient en suspens. Fait que là, ils l'ont réutilisé pour faire une des races qui a colonisé la planète Maridon. Puis, aussi, la planète a été inspirée de la BD The Wrong Side of the War, de la BD Empire. Je sais pas si tu l'as lu, toi, Jean-François.
Non.
Qui se déroulait... Parce que sur cette planète-là, en réalité, la race qui habite dessus, selon les BD, c'est les Amanaman. Tu sais, là, les...
Ouais.
Ils sont assez grands, puis ils ont l'air d'une galette étirée un peu, là.
Bon, on les voit dans le Return of the Jedi, là.
OK. Puis c'est
ça. Dans le palais de Jabba, on en voit un.
OK. Puis eux aussi roulaient sur eux-mêmes, un peu comme Sonic the Hedgehog là, de Sega. Là.
Est-ce que c'est la race qui a inspiré les Destroyer Droids? Parce que vraiment, ils roulent de la même façon. Là.
Non, mais c'est pas eux autres en réalité. C'est les Colicoids, ceux qui ont inspiré les Droid Echoes. On les voit dans le roman Millennium Falcon. Mais c'est autrement dit, il y aurait trois races, dans le fond, qui roulent comme ça, qu'on connaît jusqu'à présent. Là. Okay. Donc, tu aurais les Amanaman, qui sont sur cette planète-là quelque part, théoriquement, selon l'univers étendu des BD. Donc, ils sont peut-être sur un autre continent ou peu importe. Parce qu'il dit, le vieux sage des Lurmen, il dit, on a colonisé la planète pour avoir la paix, pour faire partie des Clone Wars, de la guerre. Mm. Fait que probablement que c'est pas la race d'origine. Donc, peut-être les Amanaman sont là quelque part, mais bon, on le saura jamais. C'est ça, ils ont fait que les Lurmen aussi, ils roulaient. L'autre référence à l'univers étendu, c'était les pods des Lurmen, les espèces de petites maisons, là.
Les grosses noix.
Ouais, les grosses noix. Ben, en fait, c'est que ces bâtiments-là ont été inspirés des concept art de Ralph McQuarrie, qui étaient les plaines de la planète Alderaande. Puis si tu regardes dans les Essential Guide, il mentionne que c'était les nids de la race Kilik, la race qui était disparue, puis qu'on a vu réapparaître dans la trilogie Darkness de Troy Denning. Okay. Donc, sur Alderaande, les concept art de Ralph McQuarrie, pour Alderaande, dans les plaines, t'avais des espèces de grosses montagnes, comme des nids de fourmis un peu.
Okay.
Puis ils ont décidé plus tard dans les Essential Guide que ce serait pour les Kilik, la race qui avait disparu d'Alderaande depuis des milliers d'années. Puis ça l'a ressurgi dans... On a vu où est-ce qu'il était rendu dans Darkness, parce qu'il avait disparu depuis des milliers d'années, cette race-là. Je sais pas si tu t'en souviens, Jean-François, ça doit faire...
Oh, ouais.
Mais les auteurs de l'univers étendu commencent à chercher loin là pour faire des liens. Là.
Ouais. Ouais, enfin. T'as la philosophie des Lurmen qui est éviter la violence et rester neutre, dans le fond. Ce qui contredit un peu le fortune cookie du prochain épisode sur le site de StarWars.com, il est déjà disponible. Le prochain fortune cookie, c'est « When surrounded by war, one must eventually choose a side ». Donc, lorsque entouré par la guerre, un côté vous devez choisir.
Mais c'est ça, mais c'était inévitable. On le voyait bien dans le preview de l'épisode, le prochain épisode, que la guerre s'amène au village. Là, je veux dire, ils n'ont pas le choix de rien faire. Là.
Mm-hmm. Non, c'est ça.
Ils peuvent pas se laisser faire, dans le fond. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment en contradiction avec le prochain. Mais bon, moi, je le vois quand même dans un ensemble. C'est certain que pour cet épisode-là, ça allait bien avec Ahsoka. Pour le prochain, ça va bien aller avec les Lurmans, dans le fond. Là.
Ça faisait très Empire Strikes Back. Là. Tu sais, Yoda, puis dans la petite hutte avec Luke Skywalker, là. Ça faisait le même genre de scène, mm-hmm. là.
Je sais pas pourquoi, moi, je pensais à Monsieur Miyagi, là.
Ouais, mais Yoda, c'est un petit peu Monsieur Miyagi.
Ouais, ok, ouais, c'est vrai. En effet. Bon, maintenant, on va parler de l'hyperespace. Je pense qu'il y a peut-être un problème technique, en tout cas.
À partir de l'atmosphère, là.
C'est ça, de qu'est-ce qu'on connaît à la base du transport, du voyage en hyperespace. Déjà, en premier, la question qu'on se pose, est-ce que c'est possible de partir en hyperespace dans un champ de gravitation d'une planète?
En tout cas, selon l'univers étendu, ça ne l'est pas, parce que c'est le principe des interdictor cruisers.
Ben ouais.
Donc... Si t'as un champ trop proche, tu peux pas partir.
C'est ça, c'est les mass shadow qu'ils appellent les champs gravitationnels, dans le fond. Dans le fond, toutes les planètes et toutes les étoiles ont un champ invisible. Puis, dans le fond, tant que t'es à l'intérieur, c'est impossible de s'en aller, de rentrer en hyperespace. Bon, normalement,
est-ce que
non.
Est-ce que ça empêche de partir ou ça empêche de calculer des coordonnées? C'est ça, je sais pas. Je lance la question.
D'après moi, même si t'as tes coordonnées de programmer, tant que t'es pas sorti, c'est comme un système de sécurité, j'ai l'impression. C'est qu'aussitôt que tu rentres dans cet ombrage, dans cette masse, dans ce champ gravitationnel-là, c'est comme une switch de sécurité qui fait que, wow, on arrête tout parce que on est trop proche de quelque chose. Fait que l'ordinateur, c'est comme, sort de l'hyperespace. C'est ça ma théorie.
C'est un système. Donc, je relance. Le système en hyperespace, il était défectueux.
Ouais, c'est ça.
Mais je sais pas si le concept scientifique fonctionne, là. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un champ gravitationnel proche ou c'est parce que le Navi computer, là, est vraiment brisé?
Peut-être que la switch de sécurité était défectueuse. Il détectait plus qu'il était dans un champ gravitationnel. C'est peut-être ça. C'est dur à dire. Puis normalement, je me souviens pas, mais le moteur hyperespace, ça avait l'air de se charger. Il me semble que dans l'univers Star Wars, aussitôt que tes coordonnées sont rentrées, tu passes le bouton pis t'es parti. Là, c'est comme s'il se chargeait. Fait que parce qu'ils ont eu le temps de se tasser, là. Ouais, ils se sont rendus compte qu'il se passait. Fait que je sais pas trop comment ça marche. Ça faisait plus Battlestar Galactica. Dans ce cas-ci, tu sais, comme dans Battlestar Galactica, la nouvelle version, ben, il faut qu'ils chargent le moteur d'hyperespace.
FTL. Pour
parler, ouais, le FTL drive. Il faut qu'ils le rechargent un peu avant de partir. Ben, en tout cas, je trouvais ça étrange un peu. L'autre affaire que je me souvenais pas, dans le dernier épisode du Malevolence, Anakin a pas programmé, le Malevolence pour qu'il parte en hyperespace, mais vis-à-vis la planète.
Oui. Ouais.
Pour qu'il s'écrase dedans. Donc, c'est comme un autre exemple que il va falloir s'habituer à dire que même si t'es dans un champ gravitationnel, probablement qu'il y a une switch que tu peux enlever qui va faire que oui, parce que le droïde, normalement, aurait pas pu partir si le vaisseau se serait pas dirigé automatiquement vers la planète, puis il serait pas parti en hyperespace sur la planète parce qu'il était trop proche. Normalement. En tout cas, il me semble. Fait qu'il y a comme deux occasions à date dans la série Clone Wars que de l'hyperespace qui est engagé, puis dans un cas, c'est vers dans le sens qu'il s'éloigne de la planète, donc dans Jedi Crash, il s'éloignait de la planète, donc il faisait pas face à la planète, mais dans le cas du Malevolence, c'est face à la planète, c'est encore pire.
Mais dans les deux cas, il y en a un qui était brisé, puis l'autre qui était reprogrammé, donc
ouais,
c'est pas dans des cas
standard.
Idéaux. Ouais, c'est ça.
Mm-hmm. C'est sûr qu'il faudrait considérer ça. Quand même. Mais bon, qu'est-ce qu'on voit dans la série télé, faut le considérer canon maintenant, ça a l'air. Donc, comme les clones troopers dans l'espace puis tout ça, donc...
Ouais, ils peuvent avoir des respirateurs, au moins ils ont des casques, non?
Ouais. C'est sûr. Bon, évidemment, il y a aussi un petit clin d'œil sur ce que Han Solo mentionne. On parle d'hyperespace. Han Solo, c'est lui qui mentionnait, je me souviens plus dans quel film, que il faut bien programmer les coordonnées d'hyperespace, sinon on peut frapper une étoile ou une supernova, là.
Ouais, donc, ça c'est...
Ok, c'est ça. Fait que t'as un petit clin d'œil à ça. Puis t'as le graphique de l'étoile noire, quand on voit pas le graphique de l'étoile noire, je viens de vendre mon punch, mais le graphique quand on voit qu'il s'approche de l'étoile, sur le petit écran, on voit la, comme le on voit le soleil ou l'étoile en graphique, ça ressemble étrangement au, à la planète Yavin.
Ouais, oui.
Quand tu regardes dans A New Hope, là, quand tu regardes sur le à la fin dans la bataille, là, quand tu vois la Death Star, là, puis.
Ouais.
Donc il y avait un petit puis un autre clin d'œil, je sais pas si vous l'avez entendu, c'est quand Anakin est inconscient puis il y a le masque de respiration.
Ouais, c'est Vader, ouais.
T'entends la respiration de Vader.
Donc, ouais.
C'est un autre petit cliché. Il est pas clair tout le temps, mais il a au moins trois fois là, clairement là, que tu l'entends. Bon, je mentionne encore la planète était pas un peu trop proche du Soleil pour avoir de la vie. On l'a mentionné, c'est relativement. C'est parce que tu sais, en un plan de vue, il passe à côté de l'étoile. Une seconde après, il est déjà vis-à-vis la planète. C'est comme.
Ouais, mais c'est peut-être une étoile naine, on sait pas.
Ouais, parce que l'autre question, je me posais, est-ce que le vaisseau a fait le tour de l'étoile ou il a juste été tellement proche qu'on était ébloui, on voyait pas le vaisseau, puis il a juste fait un 180 puis il est ressorti. Est-ce qu'il faisait le tour?
Je pense pas que c'est
clair. Ouais, mon impression, c'est qu'il a fait le tour, ce qui serait encore plus invraisemblable, là. Mais
j'ai aimé quand ils ont fermé les systèmes comme auxiliaires, que tu sais, la gravité est partie, puis toutes les dampers, là, ou je sais pas comment
ouais,
ça,
les gravity dampers, ou peu importe, là. Ça, c'est un autre problème. Est-ce que le seul moyen d'arrêter sa course en hyperespace, c'est de fermer le courant? Tu sais, je me le demande, là.
Non, mais il était bousillé, là, l'hyperespace, là. Faut arrêter un peu de faire des grosses hypothèses, là.
Non, mais c'est parce que j'essaie de voir dans l'univers étendu, je me souviens pas en aucune raison comment ils ont jamais sorti d'hyperespace volontairement, je pense. Ça a tout le temps été soit programmé ou sont arrivés avec un interdict through une planète puis sont sortis.
C'est sûr parce que le monde, ils sont pas assez fous pour faire ça manuel. Il y a juste les Jedi qui font ça manuel, là.
C'est certain que tu sais pas exactement où c'est que tu vas en sortir.
C'est ça. Les gens s'y font au calcul de la machine, là. Penses-tu qu'ils vont calculer ça en millisecondes, l'humain, là, qui est en train de faire ça derrière...
Attends une minute, je sors ma calculatrice.
Ouais, c'est ça.
Oups, on est passé tout droit.
T'sais. À la vitesse qu'ils vont, là, arriver à l'étoile, là, je pense qu'une seconde fait une grosse différence.
Ouais.
En effet.
Moi, une affaire que j'ai aimée, c'est que sur la planète Miranda, ils ont mentionné les noms des clone troopers. Tu sais, ça donne une touche de personnalité qu'on avait peut-être pas au début, là. Mm-hmm. Tu sais, tu connais les principaux, là.
Ouais.
Mais là, les noms, il y avait Cameron, Lucky, puis Flesh, qui sont morts.
Flesh ou Flash? Oh, je sais plus c'est lequel, ouais. Mais c'est pas la première fois qu'ils le mentionnent. Je pense dans Malevolence, t'avais les deux pilotes qui discutaient entre eux autres, puis ils disaient, oh, on va aller prendre une bière après, là. Puis,
Je pense aussi dans l'épisode, tu sais, je me souviens plus du nom de l'épisode, là, quand Yoda il était avec les trois clones troopers.
Ambush, ben oui. Fait qu'il mentionne souvent quand même les noms des clones, là.
Non, mais je trouve ça le fun qu'il le mentionne, puis ça leur donne un côté plus humain, là. Tu sais, c'est pas comme des clones qui meurent puis que tu t'en fous, là.
Ouais. Mais souvent, je veux dire, les clones génériques, c'est tout à ceux qui se font tuer, hein.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr, c'est les chandails rouges de Star Trek, là.
C'est ça. Si t'es un clone trooper blanc, t'as pas de chance.
Non. T'as pas de petite épaulette, t'as pas de...
Aucune chance de survie.
Au niveau de la fin, ça se finit encore devant un sunset, là, un coucher de soleil. Donc, il y a plusieurs épisodes qui se finissent, qu'il y a deux personnages qui regardent un coucher de soleil. Là, c'était un autre... je sais pas ce que j'avais
vu. Un autre
clin d'œil,
ouais.
Mm-hmm. Il y avait aussi, en arrière de Hela, l'espèce de petit oiseau, le petit papillon, ce qui était le même que dans Ambush, je pense. Tu sais, il y a tout le temps un petit papillon qui apparaît, puis c'est tout le temps l'espèce de petit oiseau papillon, là. Je sais pas si t'as remarqué.
J'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais j'ai pas remarqué si c'était dans un autre épisode ou pas.
Ouais, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas fait le lien, là.
Ça doit être encore du recyclage de modèles 3D, là.
Peut-être, ouais. Ils ont juste changé 3-4 polygones.
Toi, GF, t'es...
Mais c'est drôle, pour une planète qui est supposée avoir des gros arbres, il n'a pas beaucoup de gros arbres, il en avait comme un.
Ouais. Ben, il en avait peut-être... Non, il devait en avoir un ou deux. Ouais, non, il en avait juste un, dans le fond.
Puis c'est ça Bly qui trouve la plaque dans le milieu de nulle part avec un dessin d'un griffon,
d'un chasseur,
d'un arbre. Là, je veux dire, c'est vraiment dans le milieu du champ. Là.
Mm-hmm.
Il trouve une plaque. Ça explique un peu qu'est-ce qui se passe à la planète. Ils sont chanceux pas mal. Hein?
Il faudrait demander à Katie Lucas.
Ouais. Ah, moi, la seule chose que tu as juste mentionné, c'est encore une fois, c'est un autre première partie de deux.
Mm-hmm.
Qui est, je pense, c'est pas mal juste ça qu'on a eu jusqu'à maintenant, à part peut-être un ou deux épisodes. Je commence vraiment à me demander si ça serait pas mieux qu'ils fassent des épisodes d'une heure au lieu de faire des épisodes d'une demi-heure. Hein.
Mm-hmm.
Pour qu'avoir l'histoire tout ensemble au lieu que ça soit coupé. Comme ça, c'est, je veux dire, ça coupe, pis là, t'es comme, ah, oh, comme ça, là, il est coupé vraiment, tu sais, comme, vous dire que tout commençait à, tu voulais vraiment voir tout de suite comment que ça finit, là.
Ça brise le rythme.
Ouais, exactement, ça brise le rythme, pis, tu sais, c'est une fois, je peux comprendre, mais là, on dirait qu'à toutes les deux, trois histoires, c'est ça, là.
Mm-hmm. Mais il y avait quand même un début, milieu, fin, là, dans celle-là, là. Faut s'entendre mieux que dans les autres d'avant, là.
Mais si tu regardes, ça fait très, trilogie Star Wars, hein. Ça commence à un gros punch, là, super fort. Après, oups, ça se calme. Puis là, la première partie de l'épisode, ça serait comme un New Hope, mettons, ça punch pas mal. Deuxième épisode, c'est comme Empire Strikes Back, ça va moins bien, c'est plus down un peu. Puis là, la troisième, c'est de la grosse bataille de la mort, toi, puis ça risque de... En tout cas, d'après le preview, ça a l'air assez spécial. On va en parler un peu, d'ailleurs. Si on lit la description, c'est pendant que les Jedi se battent contre une nouvelle arme séparatiste, les Lurmen qui sont pacifiques doivent décider s'ils déposent les armes face aux oppressifs séparatifs ou s'ils se battent aux côtés d'Anakin, Ahsoka et Aayla Secura. Donc c'est la description de l'épisode.
On voit aussi dans la description que qu'on dirait qu'il y a un Gungan Shield par-dessus le village, je sais pas où ils prennent ça, là.
Ah, j'ai pas vraiment remarqué.
C'est, ça part du sol avec un rayon, puis...
Peut-être qu'il y avait quelque chose à bord du vaisseau qu'ils ont pu récupérer. Ils vont peut-être dire que c'est le shield du vaisseau qu'ils ont amené là, je sais pas trop. Mais c'est ça, c'est quoi le New Separatist Weapon? Je sais pas si vous avez remarqué, à la fin du preview, ça a l'air d'être un missile. On voit un missile partir.
Je suis en train de le regarder, là, je vais te dire ça.
C'est à la fin.
Oh, je l'ai vu.
C'est ça, donc ça a l'air d'être un missile.
Ouais, mais écoute, on voit trois frames à peu près.
Non, c'est ça. Fait que c'est pas une somme évidente. Puis t'as-tu entendu de la musique jazz moderne qu'il y a dans le preview? Puis c'est Aayla Secura qui fait la narration. Tu sais, c'est spécial un peu. Tu t'entends la grosse basse. Avec les tambours, ça fait bizarre comme musique, un peu comme R2-D2 quand il était dans Duel of the Droid, quand il se sauvait de Ganak à bord du vaisseau. C'est une petite musique techno, sauf que là, c'est plus jazz moderne, là, c'était spécial. On a mentionné le Fortune Cookie, donc qui était lorsqu'entouré par la guerre, un côté vous devez choisir, donc ça s'applique déjà très clairement. On le sait, qu'est-ce qui va arriver,
Lurmen.
Les Lurmen vont assurément se mettre du côté des Jedi. Ça serait tellement bien qu'ils se mettent du côté des séparatistes, par exemple. Mais bon, ça risque pas d'arriver. Puis on peut remarquer aussi que il est écrit et réalisé par deux personnes différentes. Donc comment le lien va se faire entre les deux épisodes, j'ai bien hâte de voir. Ça me fait peur un peu.
Ouais.
Puis
encore là, il y a de l'action, là, on va voir.
Mm-hmm. Puis as-tu remarqué le nouveau personnage à la fin du preview?
Ouais, c'est comme un autre gunnery, là, mais en gros, là.
Moi, ça a l'air d'un gros némodien. Mais c'est le général Locke Dirk. Locke Dird, je crois. Puis celui qui fait la voix de ce personnage-là, il se nomme George Takei. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom-là.
Ah, c'est correct, hein?
C'est officier Zulu de la série originale de Star Trek. T'sais, le japonais...
Il est mort?
Non, il est pas mort. Le japonais l'asiatique qui jouait, je pense, un technicien...
Il joue dans Heroes,
ok.
Ah, ouais, c'est le père de Hero.
Ok. Ouais. Donc, c'est lui qui fait la voix de ce général-là, là.
Encore là, ça fait très stéréotypé, hein, je veux dire, c'est...
Ben oui, c'est vrai qu'ils ont pris un Asiatique pour faire la voix d'un Némoudien. En tout cas, l'épisode semble avoir beaucoup d'action. Donc, moi, ça me plaît énormément. Le show est à son meilleur quand il y a de l'action. Il faut pas se leurrer, là. Le Clone Wars, quand t'as de l'action, c'est vraiment excellent, là. Puis le résultat, ben, de la duologie, va dépendre, d'après moi, du deuxième épisode. Là, la première partie d'épisode 1, ben, t'sais, comme trois parties, mais mettons, le premier bloc était vraiment excellent. Les deux suivants étaient un peu moins bons. Mais, je veux dire, c'était quand même très raisonnable comme épisode. Mais ça va être la combinaison des deux, comme tu dis, JF. C'est vraiment, ils devraient faire une seule entité avec les séries au lieu de nous les
présenter comme ça. Mm-hmm.
Mais bon, toute série doit avoir un punch, malgré que c'était même pas un punch la fin de celle-là. Il aurait pu, n'est-ce pas? Ça aurait été bien qu'il y ait un punch. C'est que l'armée séparatiste arriver là, au loin.
Ouais, il aurait pu faire quelque chose. Parce qu'on sait pas non plus qu'est-ce qui se passe avec les croiseurs de la République à l'autre place. Il dit il calcule les coordonnées à peu près, puis il dit il faut qu'on gagne cette bataille-là pour aller les chercher. Là. Mm-hmm. Donc on sait pas non plus qu'est-ce qui se passe avec eux. Là.
C'est ça. C'est général Uralin, non, amiral Uralin, qui c'est ça qui dit, ben cherchez toutes les voies qui correspondent à leur trajectoire, toutes les voies hyperespace qui correspondent à leur à la trajectoire possible. Donc
Sauf qu'il était pratiquement le seul croiseur qui restait, là, puis il y avait trois croiseurs séparatistes. Mm-hmm. Je sais pas comment ils vont faire pour gagner la bataille. Moi, d'après moi, il faudrait qu'ils partent en hyperespace tout de suite, eux autres aussi. Là.
Bon, on voit que c'est possible de l'atmosphère, donc... Mais pourquoi qu'ils diraient il faut terminer la bataille si tu peux en réalité partir en hyperespace de l'atmosphère? Pourquoi terminer la bataille? Ils se battaient pas pour cette... Ben oui, c'est vrai qu'ils... Et là, se battaient pour protéger la planète. Donc, finissent de protéger la planète, j'imagine. Mais je suis certain que si on voit dans le preview qu'il y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de droïdes, à ce qu'a dit, that's a lot of clankers. Fait que c'est certain que l'amiral Uralin va arriver avec une armée de clones à la fin pour les supporter parce que, je veux dire, ils sont trois Jedi et quelques Lurmen. Fait que, je veux dire, ça... Ils vont sûrement sortir quelques armes à la Ewok, là.
Ouais, c'est ça, ils vont faire tomber des noix, ces tanks pis tout ça, là.
Ouais. Non, c'est sûr et certain, voyons donc.
Ben ouais, c'est ça, ils vont avoir quelques droïdes stupides qui vont regarder en live, ils vont dire « Oh oh! » pis ils vont se faire écraser. C'est clair.
Ouais.
Pis encore une fois, ils reviennent avec les droïdes normales, les droïdes de base, les battle droïdes de base, tandis que des derniers épisodes, c'était surtout des Super Battle Droids. Hein. Ils commençaient à vraiment nous écouter dire, ben pourquoi vous vous battez avec de la merde? Battez-vous avec vos meilleurs droïdes. C'est ça qu'ils font récemment. T'sais. C'est tout le temps les Super Battle Droids.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, ils vont arriver, ils reviennent avec leurs armes de masse, la quantité.
C'est peut-être tout un battalion qui va arriver. Là. Je veux dire, toute l'espèce de gros vaisseau avec les tanks. Pis tout. Mm-hmm. C'est peut-être ça qu'ils vont envoyer, là.
En effet.
Une armée d'invasion, si tu veux. Là. Ils ont tous les genres.
Donc, dernière impression, qu'est-ce que vous avez pensé?
Encore là, c'est un très bon épisode. Il était excellent. Puis, j'espère qu'ils vont en faire d'autres de ce genre-là, parce que pour moi, il y a un très bon balance. Là. Il y a un bon équilibre entre l'action, la morale. Les dialogues étaient meilleurs que dans d'autres.
Oui. Ouais, au côté écriture, je crois que c'était supérieur que... Je pense la majorité des épisodes. Je pense que ça a été un peu la faiblesse des autres épisodes. Là.
Pourtant, c'est surprenant parce que c'est une débutante qui l'écrit, c'est Katie Lucas. C'est surprenant. Nous qui critiquons toujours George Lucas pour écrire des dialogues pénibles et mauvais, là, sa fille réussit à faire quelque chose qui est très acceptable. Puis il y a certains écrivains d'épisodes... de séries télé professionnelles qui réussissent pas à faire qu'est-ce qu'elle a réussi, c'est surprenant, là.
On dirait que George a jamais évolué. Peut-être que ça prenait une autre vision pour pouvoir changer ça un peu, là.
Mm-hmm.
Ouais, c'est ça, peut-être.
Enfin, on va voir si l'héritière de Lucas va dépasser le maître.
On va voir.
Hein, parce que si George, il entend du feedback des fans qui ont bien aimé cet épisode-là, je suis pas mal certain que sa fille va en réécrire un autre.
Soit pour Clone Wars, ou peut-être pour la série live.
Ouais. C'est certain que là, c'est plus dramatique. Puis c'est des textes un peu plus cherchés. Je suis pas mal certain que ça va être des textes plus recherchés. Et ça va être des longues storylines. Donc, faut vraiment pas qu'il y ait des écrivains différents. Ça, c'est une lacune, je pense, que dans Clone Wars. C'est que t'as tous des écrivains différents. Si t'aurais, genre, 3-4 écrivains qui écrivaient toujours ensemble, ou juste 2 écrivains qui écriraient toujours, qui scriptaient toujours les épisodes ensemble, il y aurait une cohérence. Là, on saute d'auteur en auteur. C'est certain qu'il y en a un ou deux principaux, mais tout le temps des écrivains invités, si on peut dire, des scripteurs invités, et ça fait trop... C'est moins homogène. C'est comme...
J'espère qu'ils vont faire ça seulement pour la première saison, que c'est pour tester justement les auteurs, puis que les autres saisons, ils se décident vraiment à faire une base. Là.
Mm-hmm. Enfin, seul le futur nous le dira. Oui. Donc, merci messieurs de votre présence.
Ça fait plaisir.
Pas de problème.
C'est tout pour l'épisode dédié à Jedi Crush. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires ou suggestions au sujet de la série télé Clone Wars, laissez-nous un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager SW en direct ou écrivez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre tous nos faits et gestes sur Twitter. Ne manquez pas le prochain épisode de Star Wars en direct édition Clone Wars la semaine prochaine, qui sera dédié à l'épisode Defender of Peace. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.